Tout de suite, je regarde du côté de la régie pour m'assurer que tout va bien, parce qu'il va y avoir du live avec Yarol Poupeau. Marion Guilbeault a supervisé les balances. Ça va, vous êtes content?
Bah, on va en écouter juste un petit bout, mais là on est derrière Stéphane qui fait une partie du son ce soir. Il a un super t-shirt Hellfest. Vous êtes déjà allé au Hellfest, Yarol Poupeau?
J'adorerais aller au Hellfest. J'adorerais y jouer, mais même j'adorerais y aller, quoi.
On fait un petit signe du métal. Je vois que Félix Moati aussi connaît les codes. Alors on écoute la balance.
J'ai besoin que tu montes un peu quand je fais le solo, hein. Carrément, parce que sinon j'attaque trop fort et c'est moche.
Et pourquoi il va falloir monter pendant le solo?
C'est comme ça. On est avec des guitares acoustiques, on n'a pas la pédale sur laquelle on appuie pour le solo, pour que ça soit à fond quand on fait le solo. Donc on est obligé là de compter sur le jeune garçon qui aime le Hellfest pour monter un peu. Il s'y connaît a priori, justement.
Ce sera Mathias en l'occurrence, mais on va essayer.
Mais il aime vraiment le Hellfest, demandez-lui.
À Stéphane? Ouais. Bien sûr qu'il aime le Hellfest.
Bah bien sûr.
Ouais, ouais, d'accord. Je vois le genre.
Laurent, on y va.
Ouais, on y va. Tout de suite.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au NRV, le magazine de la bonne soirée qui fait coup double tous les soirs et c'est pas forcément sexuel. Dès 18h, vous êtes au rendez-vous en avant-première sur franceinter.fr et en podcast. Et puis 22h minuit, à l'antenne, comme tout le monde. Ce soir, toute première fois pour nos deux invités. Premier long métrage pour Félix Moati qui signe Deux Fils. Ça sort demain en salle, une comédie joyeusement grave. Deux Fils pour un père médecin dépressif qui se rêve écrivain. La névrose est familiale. Félix Moati, bonsoir.
Bonsoir.
Premier album solo pour Yarol Poupeau qui signe Yarol. Il a gagné le micro, c'est notre invité live de ce soir. Il y aura aussi une séance d'algorithme, Marion Guilbeault.
Il écoutait ceci, il aimera peut-être cela. C'est un algorithme très éclectique. Ce soir, c'est celui de Félix Moati.
Et dans le Énervé la suite ce soir, théorie du complot. 8 Français sur 10 croient au moins à une théorie du complot. Et chez les Gilets jaunes, ça bat des records.
Absolument, Laurent. Alors, je vais vous faire une confidence. Vous savez que je suis l'auteur d'un livre qui est sorti il y a un an, qui s'appelait « C'est un complot ». Donc vraiment, j'en rêvais de le faire ce plateau, donc on le fait enfin. Merci, merci, merci Laurent. Et donc, alors, qui va venir parler outre vous et moi? Il y aura Valérie Higounet, historienne, membre de l'Observatoire du conspirationnisme, donc qui est co-auteur du rapport de la Fondation Jean Jaurès et de Conspiracy Watch sur les Gilets jaunes notamment, qui vient de sortir. Étienne Jacob, journaliste au Figaro. Thomas Legrand, éditorialiste à France Inter. Et Paul Morera, documentaire auteur. Il a sorti notamment Complot et conspiration, apprend à reconnaître les vrais défauts. Donc c'est un peu ce qu'on va essayer de faire tout à l'heure.
Le NRV, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Et on commence tout de suite en live, Marion Guilbeault, avec nos deux invités.
Avec un premier titre de cet enfant du rock, parce que c'est vraiment un enfant du rock, hein, Yarol Poupeau. Il joue de la guitare depuis ses 12 ans, en rythmique, en solo, dans de nombreux groupes. Le plus célèbre, c'était FFF, la fameuse Fédération Française de Funk, et plus récemment avec son frère Melville, dans Black Minou. Mais Yarol Poupeau, on l'a surtout vu et entendu ces dernières années, aux côtés de l'idole des jeunes. Alors, qu'a-t-il appris avec le patron, comme on l'appelait? Début de réponse dans son premier album, où il s'incarne cette fois-ci en chanteur. Un disque terriblement vivant, un disque qu'on retrouve sa passion pour le rock, pour le funk, pour les guitares qui couinent et qui groovent, même en acoustique. C'est la formule qu'il a choisie ce soir dans le NRV. C'est à vous, Yarol.
Les girls, ce que t'adores.
temps. Tu ne vois tout ce que tu ne vois faire avec un peu d'humour et un soupçon de flegme. Because girl, on aime les étincelles. Joue pas les durs, ne sois pas vainqueur d'or. Se parler. Là, les girls, il se peut que t'adore.
Wow, merci.
Yes, Yarol Poupeau en live pour un premier titre signé Girl. Rejoignez-nous, Yarol.
Premier titre pour ce premier album titré Yarol. Enfin, vous y aurez mis le temps.
Bah oui.
Ça, je peux vous le garantir.
J'étais occupé avant. J'avais
bah
pas
oui,
le temps.
Il y avait plein de groupes et tout ça. Non, mais vous aviez quand même pensé depuis longtemps à un album solo?
Oui, évidemment, on y pense parce que moi, j'ai toujours écrit des chansons, j'ai toujours aimé chanter, voilà. Mais en même temps, j'ai toujours fait de la musique avec des gens. J'ai toujours, pour moi, c'est, la musique, c'est aussi vachement une histoire d'échange, de partage. Et donc, avec Melville, par exemple, on fait
Melville
de la musique
Poupeau,
ensemble,
votre frère,
avec
ouais.
Melville Poupeau, ouais. Donc, on fait de la musique depuis qu'on est môme, dans notre chambre, à droite, à gauche, dans des clubs, au sein de certains groupes et tout.
Il est présent aussi dans l'album, d'ailleurs, pour les chansons.
Oui, il est bassiste sur l'album, ouais. Et voilà, même avec Johnny, il y avait quand même, bon alors là c'était un peu différent, mais il y avait quand même cette notion de groupe où tout le monde participe et tout le monde en fait met un peu de du sien, de son identité, de moi j'aime quand tout le monde se reconnaît dans la musique. J'ai pas envie de dicter exactement quoi jouer à tous les musiciens, j'aime que chacun vraiment s'implique dans le projet. Voilà, et donc là on est rentré en studio, en fait je savais pas si j'allais trouver un nouveau nom de groupe, je sais pas. Et en fait plus je travaillais sur l'album, plus je me rendais compte qu'il me ressemblait beaucoup, qu'il était très personnel, et donc au bout d'un moment je me suis dit mais je vais mettre mon nom sur la pochette. Et voilà. Alors je vais le revendiquer complètement.
Ce soir, vous partagez donc le plateau avec Félix Moati. Vous vous connaissez tous les deux?
Oh, on se croise parfois dans des bars, je veux dire.
On s'est croisés.
Je connais un peu Melville, le frère de Yarol. Et,
oui,
et c'est vrai que c'est des frères plein de talent, quoi. Vraiment. Hein, donc.
Vous avez déjà assisté à un des concerts de Black Minou, peut-être?
Et non, jamais.
Ah.
Ça, jamais.
De Johnny Hallyday?
J'attends l'invitation. De Johnny Hallyday non plus.
Non plus.
Non.
On peut changer d'invité,
s'il vous plaît. Non.
Vous avez eu aussi des expériences de groupe de votre côté?
J'en parlais à Yarol tout à l'heure dans la loge, c'est-à-dire je me suis carrément fait tatouer le nom d'un groupe sur le bras gauche, ça s'appelait Amok Music Club, et après ils ont eu le bon goût de me virer au bout d'une semaine parce que j'ai aucun sens du rythme.
Et vous jouiez de
quoi?
J'étais à la basse.
Ah, à la basse.
Ouais.
D'accord.
Mais c'était plus une stratégie un peu puérile pour draguer.
Ah bah toujours.
Ouais, à la basse.
Ouais, c'est la même pour tout le monde.
J'avais pas le talent que tu avais.
C'est juste un alibi. Hein.
C'est ça.
Et il y a eu d'autres tentatives après?
Non,
après c'était terminé.
Ouais.
De votre côté, des expériences de cinéma aussi, j'ai pu voir par-ci, par-là.
Ouais. Oui, ça. Moi, c'est-à-dire que j'ai grandi dans une famille de cinéma. Notre mère travaillait dans le cinéma.
Attachée de presse, notamment de Marguerite Duras.
Voilà, de plein de gens. Donc, c'est sûr que c'est un milieu dans lequel je me sens assez à l'aise. Donc, oui, il m'est arrivé plusieurs fois d'apparaître dans des films, mais. Faut dire qu'en général, quand je suis dans un film, je joue un peu mon rôle.
C'était ça dans Guillaume Canet, Rock'n'Roll.
Voilà, alors je m'appelais carrément Yarol, donc voilà, il n'y a pas de problème. Mais même, j'avais fait une petite apparition dans un film de Zoé Cassavetes et je jouais le frère de Melville. Enfin, voilà, donc je joue à chaque fois mon rôle. Je n'ai jamais eu encore le bonheur, le plaisir de
chez
jouer.
Chez Claude Lelouch, celui-là, je l'ai pas vu. Chez Claude Lelouch.
Pareil, j'étais guitariste de Johnny Hallyday, tu vois.
Ah oui, donc, vraiment, vous n'en sortez pas. Et vous attendez ça?
Trouvez-moi un rôle un peu.
Ah oui, vous seriez partant.
Ah bah oui, je pense que ça m'amuserait, ouais. Enfin, je sais pas, faudrait que je teste, mais oui, ça m'amuserait.
Deux fils, c'est votre titre, des histoires de frères. J'imagine que tous les deux vous connaissez. D'ailleurs, vous, j'ai vu dans le film qu'il y avait à la fois votre frère et votre sœur dans l'équipe.
Ouais. Bah en fait, c'est ça qui est
Félix
génial.
Moati.
C'est ça qui est génial dans le cinéma, c'est-à-dire que c'est un moment donné, c'est un travail collectif et on délègue des compétences qu'on n'a pas. Moi, c'est ça qui me plaît.
Mais on n'est pas obligé d'avoir toute sa famille sur le dos. Moi, ça serait vraiment l'horreur.
Non, mais il y a pas toute ma famille. Mais c'est vrai que ma sœur, elle est accessoiriste.
Ouais.
Elle s'appelle Irène, Big Up Sista. Et il se trouve que c'est une accessoiriste de talent. On n'avait jamais travaillé ensemble. J'avais l'opportunité de pouvoir lui donner ce poste. Alors je lui ai donné. Et mon frère est pas du tout photographe, mais il fait des très très belles photos et donc je lui ai proposé d'être photographe
de plateau. Ils sont plus âgés que vous?
Et en fait, ils sont plus âgés. Je suis petit.
De beaucoup.
Mon frère a 8 ans de plus, ma sœur 50 de plus. Et en plus, comme c'est un film qui parle de famille, je voulais qu'il y ait une forme de cohérence entre ce qu'on raconte à l'écran et la manière de fabriquer le film.
Il serait aussi présent pour les concerts, votre frère, Yarol Poupeau?
Non, parce qu'en fait, là, il est en tournée avec Benjamin Biolay, parce qu'ils ont monté un projet commun.
Benjamin Biolay, qui signe aussi.
Sur mon album
qui
aussi.
Qui signe aussi une chanson avec vous, ouais.
Exactement. Et ensuite, je crois qu'il enchaîne sur de pas mal de tournages, je crois qu'il est occupé tout l'été. Donc non, il ne sera pas avec nous sur scène, mais il peut quand même, de temps en temps, venir nous rejoindre pour une date ou deux. Oui, oui, de toute façon, oui. C'est
quand
prévu.
Quand vous disiez tout à l'heure que cet album parlait véritablement de vous, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut retrouver de vous, Yarol, dans cet album? Au niveau musical ou au niveau personnel?
Au niveau musical, déjà, il y a cette volonté de faire un album de rock'n'roll, mais de rock'n'roll très ouvert, et vraiment de mélanger toutes mes influences, parce que donc effectivement, c'est le premier truc qui m'a donné envie de faire de la musique. Moi, c'est Elvis, c'est Jimi Hendrix, c'est
d'ailleurs,
les Stones.
D'ailleurs, il y a les codes 60-70, on retrouve quelques sonorités dans l'album.
Mais en même temps, je suis toujours été complètement fasciné et très attiré par la musique black américaine, le funk, le soul, le rhythm and blues, la musique africaine aussi. J'adore ça, j'adore le hip-hop, le rap, certaines musiques électroniques aussi. Donc j'ai voulu un petit peu que ça ressemble à toutes ces influences musicales que j'ai depuis le début, depuis que je fais de la musique, et j'ai essayé de, presque intentionnellement d'ailleurs, mais de faire en sorte que ce soit ouvert, que ce soit riche et que ce soit mélangé comme musique.
Alors on va parler de musique, on va parler de son tout de suite, on vous a demandé à chacun des sons pour faire plus amplement connaissance. Un son parisien pour vous, Félix Moati. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce qu'on entend?
Eh ben concrètement, on entend le balai des voitures, quoi. Mais ouais. C'est ce que j'entends en fait le soir en m'endormant. Et c'est vrai que moi, ça me rassure beaucoup. Moi, je déteste les doubles vitrages pour ça, parce que moi, j'aime être envahi par la ville dans ma chambre. Ça me rassure, ça me berce et ça me rappelle que je suis pas seul, surtout.
Vous pourriez dormir à la campagne?
Non, bah non, je ferais une crise d'angoisse tout de suite. En fait, j'ai plein d'amis qui veulent constamment aller se faire des trucs de trentenaire, ça se faire des week-ends à la campagne et tout ça. Et moi, en fait, je sais qu'il y a pas de pharmacie à proximité, ce qui me fait peur. Et surtout, il n'y a pas le balai des voitures comme ça qui me berce, qui m'enchante vraiment.
Vous avez tourné à Paris d'ailleurs pour le film.
Ouais.
C'était bien tourner à Paris ou c'était difficile?
En fait, moi j'ai envie de, c'est comme un pacte tacite une promesse que je me suis faite, c'est-à-dire filmer ce que je connais, filmer l'environnement que je connais. Moi j'aime les cinéastes qui filment ce qu'ils connaissent. Par exemple les frères Larieux quand ils filment les Pyrénées, Guy Rodi quand ils filment la campagne, Desplechin quand ils filment Roubaix. Moi c'est quelque chose qui me touche parce que j'ai l'impression qu'ils me racontent leur mémoire affective. Et donc moi j'avais envie de filmer Paris, mais presque par souci d'honnêteté.
Mais votre Paris c'est lequel?
C'est un Paris de grand boulevard. Moi, j'aime bien le Paris des anonymes, là où on te rappelle avec un peu de violence que t'es très seul et que personne n'est là pour te consoler. Voilà, ça me touche, moi. Voilà, j'aime bien ça.
Le sens de la formule aussi. Un son de cinéma pour vous, Yarol Poupeau. Yarol, qu'est-ce qu'on entend?
Eh ben on entend le son d'un projecteur Super 8.
Ouais, ça vous rappelle quoi?
Ah ben ça me rappelle mon enfance, moi ça me rappelle mon grand-père, ça me rappelle les vacances avec Melville. Mon grand-père était donc journaliste sportif et cinéaste amateur. Donc depuis qu'on était tout minot avec Melville, dès qu'on allait en vacances, il écrivait des petits scénarios et il nous faisait jouer dans ses films en Super 8, un montage caméra direct. Et donc on faisait pendant les vacances, par exemple de février, on tournait un film dans le jardin où on était tous les deux des bandits, des cow-boys ou je sais pas quoi, ou des espèces de super-héros. Et on tournait ce film et on n'avait qu'une hâte, c'était d'arriver aux vacances prochaines pour pouvoir le voir, ce film projeté. Et donc on a dans une maison à la campagne encore regardé précieusement
ces
rouleaux Super 8 où on voit on nous voit grandir et tout, donc c'est un son très...
C'était toujours des westerns, des trucs d'aventure?
Non, pas forcément.
Des drames psychologiques?
Non, il y avait des histoires de... Il y avait des films de sport aussi, il y avait les Olympiades par exemple. Ouais, voilà, c'était plein de choses.
On filmait aussi l'enfant que vous étiez chez les Moati?
Non, pas du tout.
Alors votre là, il y a père,
non, rien. Non.
Des photos quand même ou même pas?
Des photos de moi petit.
Ouais.
Ouais, j'en ai plein. Ça pour le coup, j'en ai plein.
Mais c'était votre père ou votre mère?
C'était les deux. Ils sont assez généreux dans le fait d'enregistrer les visages des enfants, mes parents. Ouais.
Musique pour vous, Félix Moati. Voilà. Tu aimes le son de sa mécanique, car l'automatique, c'est automatique, crée la panique quand ça s'agite. Un gars qui s'excite, ça s'agit vite, mais même tes copains t'évitent. Très vite, t'essaies la rire. Quelle bonne blague de les voir taper la fuite en zigzag. Mais les mecs revenaient, c'est ta gueule. Quand ça se gâte, y'en a pas. Ça mérite une explication.
Ouais, parce que en fait c'est mon grand frère qui était fan de hip-hop quand j'étais petit et principalement de rap français parce qu'il a grandi avec la radio Génération et en fait comme j'avais envie de ressembler à mon grand frère, j'écoutais ce qu'il écoutait quoi tout simplement Et ça, c'est un groupe qui s'appelle La Brigade, ouais. que j'adorais. Et qui a un peu disparu, quoi, ce que je comprends pas. Voilà, parce que c'était un rap. Moi, j'aimais bien ce rap-là, qui est, à la différence du rap d'aujourd'hui, qui est très dans la religion, dans tout ça et tout. Là, c'était un rap vraiment où il y avait un souci de l'instru, on peut danser dessus, quoi, et ça me plaisait. Mais c'était vraiment pour ressembler à mon grand frère, quoi, vraiment.
Vous comprenez ça, Niral Poupou ?
Je suis en train de perdre ma voix.
Le fait d'avoir envie de ressembler à son grand frère.
Oui. Tout, mais c'est ce que vous avez retenu. Non, je parlais de rap ah oui. aujourd'hui, qui parlait de religion, peut-être. Style Made In, par exemple.
Ouais. Oui, après, il y a beaucoup de choses dans le rap qui sont très intéressantes quand même aujourd'hui. Moi, je suis un grand fan de rap. Effectivement, c'est vrai que nous, quand on a commencé avec FFF à la fin des années 80, ça a été un peu l'explosion, en tout cas ici, quoi. C'est là qu'on a découvert Public Enemy, Run DMC, tous ces groupes mythiques, Eric B. et Rakim. Et moi, j'ai toujours continué à écouter du rap. Et je trouve qu'effectivement, alors, le rap est devenu tellement large, il y a tellement de groupes et de gens qui font du rap que c'est un peu devenu comme tous les genres de musique, c'est comme le rock. Il y a des groupes de rock déments, intéressants, puis il y a des groupes de rock complètement nuls qui n'ont aucun intérêt.
Vous suivez qui aujourd'hui alors en rap, vous ?
Alors chez les Américains, j'aime beaucoup par exemple Kendrick Lamar. Et en France, je trouve que quelqu'un comme Aurel San est vraiment très talentueux et ce qu'il fait, c'est Damso, c'est intéressant aussi. Voilà.
Un autre son pour vous, Yarol Poupeau, plutôt animé. Ah, pour une fois qu'on ne nous sort pas les dessins d'une club Dorothée.
Ça change, hein, ça fait du bien.
Parce que généralement,
c'est on a droit. C'est là, on a Goldorak,
Albator, on a droit à tous. Mais vous, c'était plutôt donc ce genre de dessin animé.
Ouais, Tex Avery. Moi, je suis un fan absolu de Tex Avery. Et donc, bon, les dessins animés, quand j'étais môme, m'ont fait rire, mais comme c'est pas possible. Et je continue à les regarder avec mon fils maintenant, qui s'éclate aussi en regardant ça. Et c'est surtout la façon dont c'était fait aussi, le travail de production musicale et de production musicale autour de ces trucs-là. Les sons, les mecs étaient tous dans un studio un peu plus grand qu'ici, avec des tonnes d'instruments et de bruits, de machins, pour faire des bruitages en même temps que la projection du truc. C'était hallucinant quand ils travaillaient là-dessus, donc ça m'a pas mal intéressé.
On va vous retrouver tous les deux dans quelques instants. Tout de suite, je vous propose de faire un pas de côté. La nouvelle sensation québécoise s'appelle Hubert Lenoir, il joue sur le glam et sur l'androgynie. Recommencez sur France Inter.
Les vêtements sont une cible sur toi.
Recommencer, signé Hubert Lenoir, un extrait de son premier album Darlène. Il sera en concert le 17 avril à la Maroquinerie à Paris, le 20 avril au Printemps de Bourges.
Rendez-vous ?
Viens, on va boire un verre, un de ces quatre. Ça te dit pas ?
Mec, je fais parler deux secondes.
Bon, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?
Papa, il a arrêté le cabinet, il est plus médecin.
Attends, qu'est-ce que tu racontes ? T'es bourré, toi, ou quoi ?
Non, j'ai plus qu'un verre.
Laurent Goumard, sur France Inter.
Et oui, c'est un trio qui est au centre de votre premier film, Félix Moati. Deux fils, c'est le titre. Au centre, le père, joué par Benoît Poulvord. On va y revenir. D'abord, un mot sur vous. On vous a vu grandir au cinéma. Il y a eu LOL, Télé Gaucho, Chercher la femme, Gaspard va au mariage, Le Grand Bain encore dernièrement. Demain, vous sortez ce premier long métrage. Ça remonte à quand l'idée de passer derrière la caméra?
Franchement, en fait, ma cinéphilie, elle préexiste pas mon arrivée sur LOL. C'est-à-dire, je suis arrivé sur le tournage de LOL. D'ailleurs, il y a Christophe Bourselier qui joue un prof de SVT dedans. Et je suis arrivé sur le plateau et en fait j'ai découvert tout ce que je cherchais dans la vie, à savoir la fraternité, la camaraderie et le travail collectif surtout. C'est-à-dire vraiment un truc où on fabrique collectivement quelque chose qui est plus fort que nous. Et après, à partir de LOL, j'ai commencé à regarder plein de films de manière compulsive. Et c'est ma rencontre avec Vincent Lacoste.
Qui était dans votre premier court-métrage. Ouais.
Et qui est un ami maintenant depuis 10 ans et qui est un ami qui m'est très cher. Et il a rendu la chose réelle. Je me suis dit, je peux écrire pour quelqu'un à qui je peux donner des dialogues comme ça un peu sophistiqués, mais qui va rendre tout à la Mastroianni, très naturel et sans intensité.
Est-ce que vous avez grandi ensemble en fait au cinéma avec Vincent Lacoste? Vous avez à peu près le même âge, quoi.
Ouais, mais il y a 25 ans. J'ai 28 ans.
Oui, c'est ça, c'est le même âge.
Et il avait fait Les Beaux Gosses en 2009 et moi LOL en 2009 et donc c'est vrai qu'on est rentrés ensemble dans ce milieu, quoi.
Est-ce qu'il y a des réalisateurs avec qui vous avez travaillé qui vous ont marqué dans ce parcours et dont vous avez retrouvé la façon de faire dans votre propre travail de mise en scène?
Moi je pense que le fait de faire l'acteur et tout m'a donné une position privilégiée d'observateur, quoi. J'ai regardé des réalisateurs et je leur ai chippé ce que j'aimais. Anthony Cordier, avec qui j'ai fait Gaspard va au mariage, J'aime sa manière de diriger sans commenter. J'aime sa manière d'écrire des dialogues où les gens se disent des cruautés sans le sursignifier, comme chez Noah Baumbach par exemple. Michael Bourg, avec qui j'ai fait un film qui s'appelle Simon et Théodore, j'aime sa férocité, son envie de pousser le réalisme très loin. Et Michel Leclerc, à qui je dois beaucoup, énormément, c'est mon mentor de cinéma. Je lui dois l'importance de la comédie, en fait, de la comédie, à quel point c'est dur et à quel point c'est une délicatesse, en fait, la comédie.
Donc, ça, et les réalisateurs qui vous ont fait souffrir? Il n'y en aura pas?
Non. Ouais, le cinéma, ça doit être une fête.
Tu parles. Ouais, on y croit. Alors donc, demain, deux fils, une chronique familiale sur la filiation, la transmission, le nom de famille, trois personnages soudés, une vraie cellule familiale, et pour la cellule familiale, ça veut dire quelque chose. Joachim, c'est Vincent Lacoste, est étudiant, il a du mal à finir sa thèse en psychiatrie, il se remet difficilement d'une rupture amoureuse et projette de devenir le plus grand psychanalyste du monde. Il y a de la place. Yvan, lui, a 13 ans, c'est son frère, il traverse une crise mystique, il a des pulsions sexuelles, comme tout le monde à son âge, et regarde avec une certaine crispation les dépressions de son frère et celles de son père, dévasté par la mort de son propre frère, et qui a quelque chose à dire à ses deux fils. On l'écoute, bande-annonce.
Les enfants, j'ai une nouvelle à vous annoncer. J'ai abandonné mon cabinet. Je me suis consacré uniquement à l'écriture.
C'est très bien, papa.
J'ai rencontré une jeune femme qui trouve que j'ai un style qui n'est pas sans rappeler Tolstoï.
Ok, c'est un grand malade. Je serai le plus grand psychanalyste du monde.
Ok, tu te prends. T'es censé écrire une thèse en psychiatrie depuis 2 ans.
Vous avez aucun respect pour mon chagrin, quoi? Vous savez que j'ai perdu la femme de ma vie, quand même?
Qu'est-ce qui s'est passé avec Suzanne? Elle te manque?
Non. J'ai un petit frère de 13 ans complètement alcoolique. Hey, tu sais ce qu'on va faire? On va prendre un shot toutes les 10 minutes. Et au bout du cinquième, on va en prendre un toutes les 5 minutes.
Tu vois, avant, il était fort. Un peu comme Poutine.
Comme Poutine?
Oui, le russe, là, tu vois.
Tu veux qu'on sorte ensemble?
Non.
D'où vous envoyez une lettre de refus à mon père? Vous n'êtes pas censé être amis?
Le roman de votre père. Vous l'avez lu?
C'est si mauvais que ça.
Vous voulez un café?
Non, c'est pas Tolstoï, quoi.
Ton frère écrit des poèmes érotiques qu'il distribue à sa classe. Qu'est-ce qui vous prend, tous les deux?
Deux fils, pas deux frères. Hein. Le titre, c'est deux fils parce que c'est le père qui est au milieu. La mère est absente, c'est du pain béni pour la psychanalyse. On va y revenir. L'un a 13 ans, l'autre a un peu plus de 20 ans. Hein. Joachim a un peu plus de 20 ans. Oui, c'est ça, les 25 ans. Vous avez aimé quel âge quand vous étiez plus jeune? 13 ans ou 25 ans?
Moi, j'ai tout aimé. Pour l'instant, j'ai 28 ans, hein, mais j'ai tout aimé, à part de mes 19 à mes 23 ans.
Où je trouve que
c'était un âge terrifiant, j'avais peur de tout. Globalement, je me posais des questions et en fait, j'étais obsédé par l'idée de trouver des réponses, alors qu'en fait, il faut juste accepter de se poser des questions.
C'est quand t'as commencé le cinéma en même temps?
J'ai jamais fait le lien de cause à effet, mais je comprenais pas en fait. Je me sentais obligé, comme j'avais joué dans LOL, de faire le mec un peu puissant et tout, alors que vraiment, tout me faisait flipper. Et je n'osais pas me poser des questions en fait. Voilà.
Et vous, Yarol Poupeau?
Vous étiez un adolescent heureux?
Oui, ça allait. Ouais. Franchement, j'ai pas eu de grands problèmes à l'adolescence. J'étais vraiment focalisé moi sur la musique.
Oui, vous saviez déjà. Vous aviez déjà.
Bah, oui, enfin, je savais. Non, j'espérais quoi. Enfin, je faisais tout pour. Je bossais. C'est-à-dire qu'effectivement, ado, moi, souvent le mercredi après-midi, mes potes allaient à la boum chez la copine ou au Cinoche ou machin. Moi, je restais à la maison pour bosser les riffs de AC/DC ou des Stones. Et voilà. Donc, parce
c'est
que
quand même rassurant quand on sait bosser. Vraiment ce qu'on veut faire, hein, bien sûr.
Non, ce qui est surtout un truc de dingue, c'est de réussir à le faire. C'est-à-dire que c'est un peu, moi, des fois, je me pince encore. Hein, je me dis, c'est comme si, je sais pas, j'avais voulu être, on en parlait tout à l'heure, cow-boy, et puis que je me retrouve cow-boy. Donc c'est
plus difficile.
Oui, ouais. Mais c'est un rêve tellement fou aussi en même temps de voir d'être musicien, de guitariste de rock'n'roll, d'être monté sur scène, de faire des disques, que le fait d'avoir réussi à faire quel que soit le truc. Je pense que un rêve de gosse qui devient ta profession et ton métier, ouais. C'est un truc assez incroyable.
Un des fils, le plus jeune, cherche consolation dans Dieu, la croyance, mais aussi dans la chair. C'est généralement l'ambivalence. C'est quelque chose que vous avez vécu, vous aussi, la crise mystique à l'âge de 13-14 ans?
Ouais, mais j'étais très religieux à l'âge de Yvan, ouais. Mais j'étais obsédé par les textes sacrés, notamment par l'Ecclésiaste, le début de l'Ancien Testament, dont on connaît les phrases les plus célèbres, vanité des vanités, tout n'est que vanité, parure de vent, et voilà, je sais pas, j'étais obsédé par le latin, je voulais vraiment, j'adorais cette langue, franchement, bon, je sais pas l'utilité de ce truc, mais j'adorais ça, j'avais un plaisir. Moi, je n'étais pas fort en mathématiques, en fait, j'y trouvais le même plaisir de l'esprit, en fait, dans le latin. Et c'est vrai que la religion était quelque chose de très important. Et maintenant, je suis un athée, mais je regrette de l'être. J'aimerais bien avoir un système de croyance qui me rassure, mais c'est vrai que j'ai pas trop.
Je voudrais juste rester sur ce personnage, donc le collégien de 13 ans, parce que ce qui est intéressant, c'est que il est le plus jeune de tout le casting. Ouais. Il a un regard et des propos d'adulte. Et je me suis demandé, vous, quel adolescent étiez-vous? Est-ce que vous aussi, vous étiez le plus jeune de toute, je sais pas, une famille de gens plus âgés que vous, pour avoir ce regard à la fois d'enfant qu'il y a dans le film, mais en même temps des discours d'adultes.
Bah en fait, il y avait un élément de comédie, c'est-à-dire que je voulais que, parce qu'il est tout petit, Mathieu Capella, et j'avais envie de lui mettre des dialogues volontairement sophistiqués et des passions sophistiquées, que ce soit la religion, le latin, l'alcool, la cigarette, parce que je trouvais que ça faisait un décalage comique.
Ah bah quand il parle à sa copine, enfin celle qu'il aimerait, celle dont il aimerait qu'elle devienne sa copine, il s'exprime comme dans un film de Woody Allen.
Ouais, c'est vrai. Bah moi j'étais un adolescent, en fait déjà, bon, j'avais été diagnostiqué petit, très hyperactif, donc j'avais des problèmes de scolarité et tout ça. Bon, j'adorais l'école, donc je travaillais beaucoup, mais j'avais des vrais problèmes de concentration et de comportement. Et voilà, quoi. Et donc, je pense qu'il y a une rapidité chez Yvan. Parce que c'est un âge à la fois de tendresse et de férocité, cet âge-là. Et c'est ce que j'ai trouvé chez l'acteur qui l'incarne, à savoir Mathieu Capella.
Alors, justement, un mot sur le casting, parce que vous avez trouvé à Vincent Lacoste un frère beaucoup plus jeune, Mathieu Capella, et un frère qui marche tellement bien que même dans le jeu d'acteur, on retrouve une proximité. C'est-à-dire que Vincent Lacoste, on le sait, a une sorte de particularité, c'est-à-dire qu'on le regarde en tant qu'acteur et on voit le personnage à côté, parce que Vincent Lacoste est quand même toujours présent, ouais, au-delà même de son personnage. Mais c'est le même cas pour le jeune acteur qui joue son frère, qui est un acteur non professionnel. Ouais. C'est le genre d'acteur que vous aimez, justement?
C'est le genre d'acteur que j'aime, savoir une sorte de nonchalance concernée, une sorte des gens qui ne courent pas derrière l'intensité. Moi, je trouve que Melville Poupeau, le frère de Yarol, a vraiment ce genre d'allure aussi, très élégant, et toujours un peu à côté de leur personnage. Moi, voilà, ça, c'est des acteurs que j'aime beaucoup.
Et vous êtes à côté de vos personnages quand vous jouez?
Je sais, je suis mauvais juge de moi-même, je dois dire, mais...
Oh, bah, vous regardez quand même depuis ce parcours, vous...
Non, franchement, je sais toujours pas.
Parce que Poulvorde, lui, il n'est jamais à côté de ses personnages.
Ouais, mais dans mon film, il a un truc un peu d'effacement, de retrait, et je trouve que il a ce truc vraiment de grande élégance, Benoît Poulvorde, qui est rarement exploité au cinéma, c'est vrai, mais qui est un truc que j'ai pu voir pendant le tournage du Grand Bain, par exemple.
Quels sont les types d'acteurs que vous n'aimez pas? Je ne vous demande pas, non, pas de nom, mais simplement dans la typologie ou dans la façon de faire. Le côté acteur studio, par exemple, ça ne nous intéresse pas.
J'aime bien les acteurs où j'ai l'impression qu'ils me parlent un peu d'eux-mêmes. Un peu, pas trop. Hein. J'aime la fiction, j'aime le romanesque, mais j'aime bien les acteurs où je me dis, je me sens une familiarité avec eux. Je crois savoir qui ils sont.
Pourquoi vous n'êtes pas dans le film?
Ah, j'avais pas envie de me filmer. Sincèrement, j'avais envie de faire ce film pour apprendre à regarder, quoi. Donc j'avais envie de regarder d'autres gens que moi.
Votre père a regardé le film, parce qu'il est question d'un père et de deux fils.
Ouais. Bah, bien sûr.
Alors,
évidemment.
Quel regard? Oh, énamouré sur la production de son fils.
Non, mais il y avait une extrême émotion, c'est vrai. C'est vrai. Moi, de toute façon, je fais quand même tout pour rendre fiers mes parents, quoi. Je suis très structuré par cette idée, j'ai envie d'honorer mon nom. Et donc, ce qui est un poids, hein, mais j'ai envie d'honorer mon nom. Et donc, voir l'émotion de mes parents, de mon grand frère, de ma grande sœur, de mes cousins, c'est quelque chose qui me touche particulièrement.
Vous comprenez ça, vous, Yarol Poupeau, qui avait supprimé votre nom sur la pochette? C'est Yarol et Poupeau, on l'a mis de côté.
Oui, enfin, honorer mon nom, peut-être, oui, mais en tout cas, c'est sûr que faire plaisir à... Enfin, en tout cas, de rendre fiers ses parents, ouais, et son entourage et les gens qu'on aime, ça, c'est très important. Je pense à tous, notre premier public. C'est-à-dire que, effectivement, si je faisais un disque, que je faisais écouter à ma femme, à ma mère, mon fils, mon père, enfin, je ne sais qui, et qui me dit, mais c'est nul ce que t'as fait.
Ou encore qu'il n'en parle pas, c'était même...
Ouais, ouais. C'est même on va pas en parler, ouais, de ton disque, hein.
Non, mais ça serait même encore pire. Ça existe dans les familles d'artistes. On a reçu ici Pierre Palmade, qui joue la pièce qui s'appelle Le Lien de François Bégodeau, et on apprenait que la mère de François Bégodeau n'avait jamais lu un livre de son fils.
Oui, oui. Alors peut-être, ouais, ça c'est encore indifférent, mais après, peut-être justement, c'est... Bon, moi, je trouve qu'on fonctionne comme ça, peut-être justement, c'est se tromper que d'essayer de... C'est peut-être le jour où mes parents trouveront ça nul que je serai le plus content de mon disque. Je sais pas. Peut-être faudrait réfléchir à ça.
Ben ouais. Alors, il y a une chose qui m'a beaucoup intéressé aussi. Vous disiez que vous aviez écrit des dialogues sophistiqués pour un gamin de 13 ans. Mais tous les dialogues sont très sophistiqués. Les monologues aussi. Par exemple, le monologue de Poulvorde sur son lit à côté de sa compagne, sur sa vie, sur ses enfants. C'est quelque chose de très, très écrit. Le père se rêve écrivain, une sorte de Tolstoï raté. Donc, je me disais, quelle est la part dans votre parcours chez vous? La part de la littérature et du cinéma, parce que manifestement, on sent bien que les mots, la puissance des mots est très importante.
Bah ouais, moi c'est vrai que j'ai grandi un peu entouré de livres. J'ai fait Hippocane, Cannes, les classes préparatoires littéraires.
Ah oui, d'accord, oui, toute cette partie-là.
Et c'est vrai que moi c'est vraiment la littérature qui m'a donné envie de faire des films. Je pense notamment à Philippe Roth, qui est un de mes auteurs préférés, ou à John Fante, ou à Saul Bellow. Voilà, parce que j'ai trouvé dans la littérature vraiment mes premiers camarades, en fait, vraiment les premières personnes auxquelles je savais m'identifier. Voilà, avant le cinéma.
Et puisqu'on parle de mots, la psychanalyse, puisque un des personnages veut être le plus grand psychanalyste du monde, comme on dit, le plus grand cow-boy du monde, oui, tous mégalos, mais tous ils se ramassent. Ouais. La psychanalyse, c'est quelque chose qui vous a intéressé, tenté, pour qu'elle soit présente aussi fortement dans le scénario?
Bah, moi, j'y suis venu à cause de l'hypochondrie, quoi. À un moment, j'étais extrêmement hypochondriaque, et j'étais obligé d'aller en psychanalyse, quoi. Enfin, vraiment, ça n'allait pas, quoi. Je pensais avoir toutes les maladies du monde, même le cancer du sein, ce qui était quand même étonnant. et donc, j'ai commencé.
Là, il y a un cancer des testicules qui court dans
Bien sûr,
je comprends mieux pourquoi il y a ce cancer des testicules qui apparaît. D'accord.
Et donc j'ai commencé la psychanalyse, et c'est quand même un truc. Mais moi j'ai l'angoisse joyeuse, hein. C'est un moteur. Mais j'ai commencé la psychanalyse, et c'est vrai que je me suis rendu compte que ça agrandissait le monde, quoi. Ça agrandit. Et c'est très bien. Ouais. Et donc c'est important. Et pour revenir sur la mégalomanie des personnages, ils sont tous mégalomanes, mais c'est des mégalomanes blessés. C'est-à-dire que c'est une mégalomanie qui dissimule assez mal leur fragilité, quoi, leur vertige, quoi.
Ouais, parce que le thème c'est le ratage, en fait.
C'est le ratage, oui.
C'est quelque chose qui vous concerne ?
Ah bah moi j'ai toujours la sensation d'être à côté de la vie que je devrais mener, quoi. Mais par exemple, il y a une idéologie moderne qui consiste à dire que faut pas avoir de regrets. Moi j'ai 28 ans, j'ai déjà que des regrets. Et moi je suis touché par les gens qui font la liste de leurs regrets. C'est pour ça que j'aime les bars très tard la nuit, parce que j'aime les gens dont on voit pointer dans le regard le regret. Ça me touche.
Donc ça veut dire qu'on peut vous voir dans un rad à 2h du matin sur les grands boulevards ?
Ouais, j'y suis.
Vous nous donnez rendez-vous. Vous restez avec nous, Yarol Poupeau, bien sûr, Félix Moati. Tout de suite, c'est l'algorithme de Félix.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va, Marion ?
Vous avez rendez-vous ?
Rendez-vous.
On peut avoir de la musique ?
Bien sûr.
Je vois que vous êtes recommandé par Stevie Wonder.
J'adore Tom Waits. Phil Collins, Sketchered.
Le nouveau rendez-vous.
Vous aimez Mozart ?
Oui. C'est lequel ?
Le dernier.
Sur France Inter.
Marion Guilbault, c'est un peu notre psychanalyste musicale. C'est vrai, Marion?
Je prends très cher, c'est ça. Alors, vous êtes un enfant des années 90, Félix Moati, et pourtant, vos stars absolues, ce ne sont pas des pontes du hip-hop ou de l'électro, mais c'est un groupe inoxydable, toujours en activité depuis plus de 50 ans. Ils sont indissociables du cinéma, surtout celui de Martin Scorsese, qui leur a d'ailleurs consacré un documentaire et qui les a copieusement utilisés dans les bandes originales de ses films.
We'll be right back.
Ah bah...
Vous les reconnaissez, bien sûr.
Ouais.
Non, surtout, pas du sinon, il y a Yarol qui chante.
Ouais,
hein.
Ouais, non, j'ai
y a
vu,
pas
j'ai
de problème.
Vu. Mais surtout, moi, quand j'écoute ça, je revois.
Félix Moati.
Je revois De Niro qui arrive dans Mean Streets, dans le petit bar, avec des couleurs rouges criardes, comme ça. Et là, je me dis, moi, quand je découvre cette scène, je me dis, c'est comme ça qu'il faut vivre, en fait. Dans une forme de toute-puissance, comme un félin. Et voilà, moi, les Stones, j'aime tant parce qu'ils sont aussi une partie de l'histoire du cinéma. Mick Jagger, c'est l'un des meilleurs amis de Scorsese, et Scorsese, c'est celui qui m'a donné envie de faire des films. Donc voilà.
Filmé par Godard,
bien sûr. Et puis, Mick Jagger qui a commencé à s'habiller comme il s'habille grâce à Belmondo dans Pierrot le Fou. Donc en fait, il y a toute une culture populaire qui me plaît beaucoup là-dedans.
Vous les avez déjà vus sur scène?
Jamais.
Et vous, Yarol Poupeau?
Oui, je les ai vus plusieurs fois. Ah.
Et alors?
Bah, c'était
jamais
à chaque
déçu.
Fois assez dingue. Non, jamais déçu parce que être dans le même environnement, respirer le même air que Jagger, Richards et même que tous les autres, c'est quand même un truc assez dingue. Je les ai vus une première fois, ça devait être au milieu des années 80 au Parc des Princes et c'était une claque monumentale.
Oh là là. Et là, une autre claque.
Alors,
monumentale.
Vous êtes un grand fan de musique, Félix Moati. Vous avez des goûts très éclectiques, plutôt pointus, affirmés. C'est pas tous les jours, hein, quand moi je fouille dans les ADN musicaux de nos invités que je trouve Esther Galil.
Ah ouais.
Incroyable, chanteuse franco-israélienne géniale. The Boudos Band aussi.
Merveilleux. Un truc incroyable. Esther Galil.
Ah ouais.
Et ouais.
Qu'est-ce que c'est bien.
Esther Galil avec une coupe de
mais
cheveux
oui,
comme ça.
Ouais, comme
incroyable,
la
ouais, qui avait
voilà.
Une voix très rauque.
Oui, une très très belle
bien
voix.
Bien sûr, je l'ai connue, elle.
Mais voilà, comme tout le monde, vous avez une face cachée, le côté obscur de la force, une petite casserole musicale, le truc honteux qu'on adore écouter en cachette.
Bah, qu'on adore,
et vous, Félix Moati, c'est ça.
C'est pas ma faute.
Qu'est-ce que j'aime ça?
Oh, j'aime ah
ça m'étonne pas de vous du tout.
Non, mais en fait, quand vous mettez ça, vous mettez ça à une soirée,
mais ça marche.
Les gens dansent, mais
bien sûr,
ça crée du lien. Ouais. Et c'est non, moi j'adore cette chanson. Ouais.
Qu'est-ce qui vous plaît dans cette chanson?
Déjà, moi, quand j'aime bien les chanteuses parce que j'ai l'impression naïvement qu'elles s'adressent à moi. Et voilà, une petite mégalomanie, hop, comme ça.
Allez, on y va.
Mais c'est vrai que moi j'adore cette chanson. Tu la mets en soirée, tout le monde danse, tout le monde exulte. C'est un peu, c'est des morceaux. Voilà, comme la compagnie du pianiste. Bon, là, c'est un autre niveau, mais voilà. Ouais.
Oh, bah, c'était pas mal, ça aussi.
Oui, c'était très bien aussi.
Yarol Poupeau, vous avez comme ça aussi des faces cachées?
Non, mais ce qui est marrant, c'est que au moment où c'est sorti avec des potes, on avait monté justement un groupe de métal.
Ouais.
Et on faisait des reprises que de. On faisait Moi Lolita, on faisait la chanson du premier générique de la Starac, de chansons du Loft, des chansons de comme ça, de trucs, rien à voir. Et on jouait tout Moi Lolita, L-I-T-O-T-A. Et c'était très marrant. On avait fait un ou deux concerts comme ça, c'était très marrant.
Est-ce que vous vous rappelez du clip, juste?
Oh ouais,
c'était
ouais.
Un vrai petit film. Hein.
Bah ouais, et puis qui était franchement un degré d'érotisme très puissant.
Vous n'avez jamais réalisé un clip encore?
Non.
Pas de projet
j'en serais incapable, je pense.
Ah ouais.
Ah bon?
J'en serais incapable. Il faut une narration et tout. Je trouve ça très dur comme exercice.
C'est vraiment un métier différent. Ouais, les cinéastes et le clip, c'est rares sont ceux qui ont réussi à faire les deux.
Qui est-ce qui a signé d'ailleurs le clip pour vous?
Alors le premier, c'était Dimitri Coste, un ami à moi qui est photographe spécialiste dans la musique et les motos.
Ouais.
Et le second, c'est Adrien Dantou, qui est chorégraphe, qui est aussi réalisateur et qui a notamment beaucoup travaillé avec Benjamin Millepied. C'est lui qui a réalisé beaucoup de films pour Benjamin Millepied. Et il avait déjà fait un clip, et c'est un ami à moi, et je suis très content du clip qu'il a fait pour Girls, justement.
Alors, si je mixe votre goût pour le rock, les guitares, votre premier concert, je crois que c'était les Black Lips
à l'Élysée Montmartre.
Donc voilà, donc c'est pas vraiment des berceuses. Mais je sais que vous êtes aussi sensible à la scène française, à la femme, Papouze, Cléa Vincent, Bagarre, tous les gens qu'on aime beaucoup aussi au Nouveau Rendez-vous. Je me dis qu'il y a une place entre vos oreilles pour la musique romanesque de H. Burns. Un nom et un chant en anglais pour ce français fan d'Americana. Son premier album, il était dédié à Johnny Cash, mais il a également enregistré avec Steve Albini, qui a produit Nirvana. On entend dans sa musique aussi bien le folk crépusculaire de Leonard Cohen que les guitares nerveuses de Neil Young. C'est une musique imaginée en toute indépendance, les yeux fixés de l'autre côté de l'Atlantique. C'est vibrant et c'est habité.
Now you can almost taste it on your sharpened jaws. And you can almost say it in your wildest prose. It all looks like the mockingbird stop laughing at you.
Burst H. Burns, le titre s'appelle Tigresse et c'est un extrait de son nouvel album Midlife, ça va sortir chez Vietnam Records, c'est le label de Franck Annès et c'est attendu pour le 29 mars, ça vous plaît?
Ah ouais, c'est super, je trouve. Ah ouais, ouais, c'est vraiment très bien. C'est Franck Annès, vous avez dit?
Le label de Franck Annès, c'est Vietnam Records et l'artiste s'appelle H. Burns.
Ah, c'est super, ouais, carrément.
Très bien.
Et vous, Yarol?
Ah ouais, ouais, super.
Vous validez aussi?
Ah ouais, ouais, c'est très bien, je ne connaissais pas, je le découvre, c'est cool.
C'est 100% gagnant pour vous, Marion Guilbeault, ouais, ce soir.
C'était pas le cas la dernière fois avec Julie Gaillet.
Non,
allez, deux
il a fallu insister.
C'est vrai. Ça vous plaît? Ça vous plaît?
Mais si, ça vous plaît. Ouais, allez.
Deux fils, ça sort demain en salle et c'est joyeusement grave. Vous restez avec nous, Félix Moati. Tout de suite, on va partir en live.
Rendez-vous.
Et ça, ça nous plaît, Marion Guilbeault.
Et oui, et il reprend sa super guitare Gibson. Il retrouve Philippe Almosnino, un autre expert de six cordes à la guitare, lui aussi. Il sera en tournée un peu partout près de chez vous. Istres, Montpellier, Beauvais, Mulhouse. Le 20 mars, ce sera la maroquinerie à Paris. Après, il y aura Chelles, Dijon, Alençon. Mais là, il est en live au NRV. Yarol Poupeau, c'est à vous.
You wanna play with me? I got a little game. Are you ready? It's called Boogie. It's pretty easy. You don't need to learn the rules. There's no way you can lose. Come on, baby, and run with me. I wanna boogie with you. 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 Cause you're gonna pop and do the stroll. We do the hop, it's gonna pop, we're gonna roll. I'm gonna make you a live wire. It's getting hot, give me a shot. You did good, I know you would, I know you could. The time is up, so let's get it up. I wanna boogie with you. I wanna boogie with you. I wanna boogie with you. I wanna boogie with you.
Accompagné par Philippe Almosnino à la guitare et à la prise de son, Stéphane Elfest-Boja, Mathias Alléon et Gilles Gaillard. Et la vidéo, c'est Dominique Philippot parce que les lives sont à retrouver sur franceinter.fr. Vous avez commencé à jouer de la guitare vers 12 ans, Yarol. C'était qui votre guitariste modèle, fétiche à l'époque? Qu'est-ce qui vous a donné envie?
Moi, c'est Elvis.
Carrément.
Ouais, quand j'étais môme, j'ai vu Elvis, je crois que c'était même carrément le jour où il est mort, j'ai vu ça à la télévision, ils ont passé Jailhouse Rock ou je ne sais quel film de King Creole ou je ne sais plus lequel, et j'ai eu un flash. Alors, il y avait déjà beaucoup de musique à la maison, hein, c'est-à-dire que on écoutait Dylan, on écoutait les Stones, on écoutait les Beatles et tout, mais Elvis, j'ai vu ce mec-là avec la guitare sur là, en train de chanter, la classe qu'il avait et tout, j'ai fait waouh.
Et c'est le même aujourd'hui, si vous deviez aujourd'hui vous dire un guitariste de référence, c'est toujours
Elvis.
Alors, Elvis,
alors attention. Pour la façon de jouer et tout ça, ouais.
Alors, Elvis, il n'est pas vraiment.
Oui, c'est pas vraiment un guitariste.
C'était le mec avec la guitare.
Voilà, qui tenait la guitare.
Après, dans les guitaristes, c'est un autre truc. Non, je sais, moi, j'ai, ben, gamin, effectivement, les trucs qui m'ont fait le plus aimer la musique, c'est Chuck Berry, c'est Eddie Cochran. C'est vraiment les musiciens de rock and roll, le rockabilly du début, quoi. Et après, évidemment, Jimi Hendrix est arrivé et Angus Young et puis plein d'autres musiciens comme ça, Jimmy Page, enfin les grands
mais
génies.
Mais pas du tout la scène française.
Il n'y en avait pas beaucoup, je sais.
Alors je suivais un peu. Je m'y suis mis un peu après Téléphone. Alors je suivais un peu Téléphone. Il y avait deux trois trucs. Il y avait Trust effectivement, mais non. Moi, ma culture musicale, elle a été quasiment 95% anglo-saxonne.
Et la première guitare, c'était quoi?
Alors la première guitare, c'était une espèce de guitare classique, mais injouable, toute pourrie, dégueulasse, que j'ai pas gardée longtemps. Et la première guitare, elle m'a été vendue par quelqu'un qui justement avait travaillé avec Esther Galil, qui s'appelle Eric Lévy, qui était guitariste de Shaking Street.
Ah oui, bien sûr, ouais. Je me rappelle de ce groupe.
Groupe de hard français des années 70-80.
Ou de banlieue parisienne.
Et donc Eric Lévy, qui était un ami de ma mère, avait une guitare, donc ça ne servait plus trop. Il me l'avait vendue pour une somme ridicule à l'époque, et ça m'a fait très très plaisir. Et cette guitare, je l'ai toujours. Et c'est.
Et vous en avez beaucoup des guitares? Vous êtes collectionneur?
Je commence à en avoir pas mal, ouais. Je ne suis pas collectionneur dans le sens où je ne vais pas dans des ventes aux enchères acheter la guitare. Déjà, je n'aurais pas les moyens. Et puis en plus, ça ne m'intéresse pas parce que mes guitares, je m'en sers, c'est des outils. Je leur mène la vie dure, elles sont sur la route avec moi, elles travaillent, elles bossent. Donc je les range pas dans des coffres forts. Voilà. Mais oui, je commence à en avoir pas mal. J'adore ça. Depuis que je suis môme, je mets presque tout mon blé là-dedans. Donc,
il y a des guitares qui ont des fonctions précises chez vous?
Oui, complètement.
Par exemple,
Déjà il y a des guitares acoustiques,
électriques. Oui, non, ça d'accord. Ça, je crois que je cerne le problème. Ouais.
Non, mais par exemple, c'est sûr, il y a des guitares
associées à des concerts précis.
Oui, non, il y a des guitares qui sont plus un peu pour la scène. Il y a des guitares qui sont plus pour le studio. Il y a des guitares qui ont un son plus épais, plus grand.
Vous composez, composez avec quelle guitare?
Ça dépend. Ouais. Franchement, en général, ce qu'on dit, c'est qu'une guitare a des chansons dans elle. Donc, des fois, effectivement, il y a une certaine guitare où on en... ça peut aller même d'ailleurs dans le magasin. On voit une guitare, on l'essaye, et puis hop, il y a un riff qui est une idée de mélodie ou une chanson, une grille d'accords qui en sort. Et donc, ça vient souvent comme ça. Je sais pas.
Quelle est la chanson qui est arrivée en premier pour cet album que vous signez en votre nom, Carole Popo?
Peut-être une chanson qui s'appelle Voodoo Love.
C'est une de mes préférées, moi, Voodoo Love. J'aime beaucoup.
Merci, moi aussi.
J'aime bien quand vous dites moi aussi.
Mais moi aussi, c'est celle que je préfère.
Ah bah, ça tombe bien.
Non, mais en fait, c'est une chanson justement qu'on a faite avec, qu'on a composée avec Melville. Et notre troisième frère aussi, César,
il y a tout le monde. Il y a un film de famille d'un côté, un album de famille de l'autre. C'est génial.
Donc voilà, en fait, on se retrouve souvent quand on va dîner chez notre père, on se met tous les trois dans un coin, dans une pièce, dans le jardin, s'il fait beau ou quoi, avec des guitares, et on fait les cons, et on enregistre des idées de chansons, des bouts de trucs, on bœuf. Et donc, il y a une ou deux chansons de l'album qui sont nées justement de ces sessions nocturnes, tardives.
Et le moment alors où vous dites je passe à l'acte, c'est quand c'est. Moi je me demandais, est-ce que c'était lié au décès de Johnny Hallyday? Parce que ça vous a quand même occupé pendant beaucoup de temps, ça vous a pris de l'énergie, du temps. Et j'imagine
surtout
que
quand
que
vous avez rédigé l'héritage.
Oui.
Parce que c'est vous qui êtes derrière ça, faut quand même le dire.
Faut pas le dire.
Attention. Non, j'imagine que ça a dû laisser peut-être de la place.
Non, mais le truc qui est sûr, c'est que quand on travaille avec Johnny, qui était un hyperactif aussi, un peu comme toi, et qui n'arrêtait pas de toujours vouloir aller de l'avant et prévoir. Il avait même pas fini un album, qui pensait déjà au prochain, qui pensait déjà à la prochaine tournée. Il faut que je tourne un film. Et voilà. Donc, on avait un emploi du temps très, très chargé. Et vu que ça se passait très, très bien, que notre collaboration était très agréable et très fluide et qu'on s'entendait très bien, j'aurais été complètement stupide de lui dire, écoute, j'arrête de travailler avec toi parce que, voilà. Donc, c'est sûr qu'à partir du moment où je me suis retrouvé, malheureusement, avec plus de temps devant moi, j'ai eu plus la possibilité de m'engouffrer dans cette nouvelle aventure et de faire cet album. J'avais commencé à écrire les chansons avant et j'avais déjà enregistré une partie de l'album avant qu'il nous quitte.
Et qu'est-ce que vous avez appris de lui pour vos propres chansons?
C'est pas tant pour les chansons, c'est surtout ce que j'ai appris de lui. C'est bon, alors si, effectivement, une manière de prendre la scène d'assaut, d'être vraiment comme ça. Comment dire, lui, il montait sur scène, jamais à l'économie, jamais en se disant « je vais y aller tranquille ». Non, il donnait tout ce qu'il pouvait donner, il était jamais... Il se mettait en danger, permanence. C'est-à-dire qu'il y allait et tant pis si demain, il tentait des trucs, Voilà, il donnait tout ce qu'il pouvait donner. Et c'est vraiment, pour moi, c'est ça, hein, le rock'n'roll, plus qu'un genre de musique. C'est aussi une manière de se mettre en danger, de toujours être, avoir cette espèce de risque d'être toujours un peu là, comme ça, là, sur la brèche, quoi, sur la tangente, et jamais d'être dans le confort et se dire, bon, je vais monter, faire mon petit tour de chant tranquillou ce soir.
Non, ça, c'est le côté Marcel Amont, ça, c'est autre chose. C'est une autre dimension.
Tu n'as pas entendu Marcel Amont depuis longtemps.
Moi, il y a des noms comme ça.
Chez Laurent Goumar.
C'est un pari avec personne qu'avec moi-même. Juste une question, Yaro Poupeau.
Écoute, Marcel Amont, il y a un.
Bim! C'est la cagnotte qui vient d'apparaître. J'ai une question encore sur Johnny, ou presque, mais est-ce que vous avez entendu celui qui a une voix qui ressemble étonnamment
non,
à Johnny?
Non, on en a parlé. Non,
justement,
j'ai pas
qui
écouté.
A gagné la France, est un incroyable talent ou un truc dans le genre.
Non, je l'ai pas écouté, non.
D'accord.
Mais on m'en a parlé déjà, non, j'ai pas eu l'occasion de...
Oui, ah, voilà.
Tant mieux pour lui, hein. Enfin, je veux dire,
j'espère
que quand il chante normalement, il s'intéresse
non.
aussi, quoi.
Mais non, parce qu'il chante, non, mais parce qu'il parle comme ça, et il chante comme ça, ça a été sa voix depuis des années. Voilà.
Ok,
la
bon,
France
écoute,
a vraiment un incroyable
cool.
talent.
Ah oui,
c'est
vrai,
Marion.
C'est un disque essentiellement chanté en anglais, sauf pour deux titres qui sont en français. Un signé Benjamin Biolay, un autre
qui ouvre l'album.
Voilà, qui ouvre l'album. Sale, qui est très funky, très très chaud comme ça. Et un autre par la chanteuse Corinne Girl que vous avez chanté tout à l'heure. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher dans leur écriture?
En fait, il se trouve que vu, on en parlait tout à l'heure, que mon environnement musical, depuis que je suis môme, il est anglo-saxon, quasiment dans sa totalité, quand je prends une guitare, un piano, un truc, les premières idées de mélodie, les premiers mots qui me viennent sont en anglais. Donc, j'aimerais bien être plus, j'aimerais bien plus écrire en français, je n'y arrivais pas, mais j'avais vraiment envie de chanter en français. Donc, j'ai regardé autour de moi qui étaient les gens dont j'aimais le travail. Et il se trouve que Benjamin est un auteur que je trouve vraiment très talentueux. J'aimais beaucoup ses chansons, j'aimais beaucoup, donc, musicien, super musicien. Mais il y avait quelque chose dans ses textes où j'aimais bien, justement, une espèce de manière de dire les trucs sans être trop précis non plus. Enfin, il y avait vraiment un ton qui me plaisait. Donc, je l'ai contacté, puisque je le connaissais un petit peu. Je l'ai appelé, je lui ai dit, voilà, est-ce que ça te pencherait? Et il a écouté les chansons et il est parti avec 5 ou 6 morceaux qui lui plaisaient. Puis il m'a appelé un soir en me disant, ah, j'ai trouvé quelque chose sur celle-là, viens au studio qu'on bosse ensemble. Donc, ça s'est fait vraiment très, très naturellement. Et la même chose pour Corinne. Il y a quelqu'un qui a travaillé sur son album, qui a bossé sur le mien, qui s'appelle Dorian Fiesel.
Ouais.
Et pareil, quand je cherchais des paroles en français, il m'a dit, mais demande à Corinne, c'est super ce qu'elle écrit. Donc je l'ai appelé, on s'est vu, on a bu un café, on a discuté.
Et c'est comme ça que c'est
et voilà, de la manière la plus simple possible.
Alors tout à l'heure, Marion Guilbeault, vous disiez que vous aimiez une chanson particulière, Who Do Love, comme on a été en acoustique. Et bien on écoute ce que ça donne dans l'album. L'album tourne déjà en concert, avant même hein, vous l'aviez déjà travaillé sur la scène. Quel type de concert vous voulez pour cet album? Enfin, quel type de concert vous aimez travailler?
Bah, franchement, moi j'aime les concerts, encore une fois. Nous, on monte sur scène, on sait à peu près comment ça commence. Hein, on a 2-3 points de départ, on sait par quoi on commence la chanson. Mais après, ce qu'on aime, c'est justement être surpris et qu'on ne sait pas ce qui va se passer.
Donc vous n'avez pas de setlist quand vous montez
sur
scène?
Si, on a une setlist, mais on n'a qu'une envie, c'est de s'en écarter un petit peu et de rallonger tel morceau ou d'en zapper un aujourd'hui et puis de le jouer plus tard. Et puis les concerts, le but du jeu, moi, c'est qu'il se passe un truc sur scène. Nous, on fait le concert, mais on a envie qu'il se passe aussi quelque chose dans la salle. Et c'est, moi, j'ai toujours mes premières expériences de tournée avec FFF, c'était tellement ça. C'est-à-dire au bout d'un moment, on sait même plus ce qui se passe, si c'est le spectacle est dans la salle, dans le public. Moi, j'aime quand ça a vraiment un espèce d'échange. On va donner de l'énergie au public, il va nous le rendre. Du coup, ça va monter encore en puissance et on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Donc oui, puis il y a un côté, là, ce que moi j'adore, c'est qu'on repart, on refait des clubs, on rejoint dans des petites salles et ça, c'est hyper excitant.
Marion Guilbeault, quelques dates, j'imagine,
eh ben,
pour la tournée.
En concert dès le début du mois de mars, Istres, Montpellier, Beauvais, Mulhouse. 20 mars, ben, vous serez servi pour le côté intimiste et chaud de la scène. Ce sera la Maroquinerie à Paris, Chel, Dijon, Alençon. Toutes les dates sont à retrouver sur notre site.
Merci à vous deux, merci Yaron Poupeau,
merci
Félix Moati. Le NRV, première partie, vous avez compris, bien c'est fini. On se retrouvera dans 15 minutes avec le journal, plutôt après le journal avec, après c'est pas la même chose.
On nous a menti. Ils nous ont menti.
Complot ce soir, mais qui tire les ficelles? Peut-être Christophe Bourseiller. Le rendez-vous est pris, alors à tout de suite.